Il y a précisément un mois, je vous partageais une drôle de découverte. J'étais dans Paris et je suis tombé par hasard sur une librairie qui vend des vieux bouquins. Parmi eux, il y en a un qui a retenu mon attention. Et je dois bien vous avouer que tomber sur ce bouquin, ça m'a bouleversé. Parce que c'est mon arrière-grand-père. Alors voilà, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que moi aussi, j'allais faire mon journal de bord. J'ai donc fait une première cassette de ce journal de bord numérique sur ce que le monde retiendra de mars 2023. Et ça vous a plu ? Donc je suis content. Et vous avez été pas mal aussi à me dire que ce serait cool de garder une trace physique, donc je l'ai fait. Bon, je verrai plus tard ce que j'en ferai. En attendant, vous avez été nombreux et nombreuses à jouer le jeu, à vous faire témoin de l'époque. J'ai reçu quelques dizaines de messages vidéo et de notes vocales sur Instagram. Gaspard G, c'est cadeau. Avec vos questions et vos réactions sur les sujets qui ont fait l'actualité de ce mois d'avril. Vous regardez le deuxième épisode de ce journal de bord. Voici ce qui s'est passé dans le monde en avril 2023.
Coucou Gaspard, j'espère que tu vas bien. Du coup, moi, je voulais parler des méga-bassines et de Sainte-Soline, parce que du coup, j'ai 15 ans et je suis jeune, et du coup, l'écologie, c'est un sujet qui me touche assez. Et moi, ce qui m'a un peu énervé, c'est que justement, les médias, l'image qui répandait, c'était surtout la violence, et ils avaient même pas parlé, en fait, de pourquoi les manifestants, ils étaient venus à la base. Du coup, si tu pourrais en parler, ça serait cool. Merci.
Merci Nimrod pour ta vidéo que je trouve particulièrement intéressante. Putain, à 15 ans, moi j'aurais bien aimé avoir ce genre de réflexion. Moi aussi, j'ai été particulièrement choqué par ces images de violence. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu des manifs illégales, notamment à Sainte-Soline, qui est une petite commune en Nouvelle-Aquitaine, contre le projet de construction d'une méga-bassine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méga-bassine ? Je vais y revenir, mais il faut savoir que il y avait des milliers de militants dans cette zone et le rassemblement a vite dégénéré entre les manifestants et les forces de l'ordre qui étaient présentes sur place. C'était très violent, il y a eu des blessés des deux côtés et beaucoup d'images ont tourné sur les réseaux sociaux. Alors, comme tu le dis Nimrod, pour cette affaire de Sainte-Soline, les médias ont beaucoup parlé des violences, notamment des violences policières, et à juste titre parce que les forces de l'ordre ont notamment utilisé des grenades GM2L, qui sont des armes de guerre contre les manifestants.
C'est assez impressionnant les forces qui sont mobilisées pour protéger une bâche plastique et un bout de terrain. Si on mettait autant de forces pour protéger tout un tas d'autres choses, ce serait bien, mais c'est pas le cas.
Mais définitivement, je suis d'accord avec toi, il est quand même intéressant de comprendre pourquoi, avant que ça dégénère, des gens sont venus manifester contre ce projet de méga-bassine. Les médias ont beaucoup relayé d'images, mais en vérité ont assez peu parlé du fond. Donc qu'est-ce que c'est qu'une méga-bassine ? Ou ce que leurs défenseurs appellent parfois des réserves de substitution. Une méga-bassine, en fait, c'est un gigantesque réservoir artificiel d'eau. Bon, concrètement, ce sont des énormes bassines, plastifiées et imperméables, qui peuvent s'étendre sur plusieurs hectares, et qui sont alimentées grâce à un pompage des nappes phréatiques, des zones sous la terre qui sont remplies d'eau. Le but de ces méga-bassines, qui sont financées à 70% par l'État, est d'avoir de l'eau à utiliser pour l'agriculture en cas de sécheresse. Alors, plutôt malin en apparence, au cas où, mais en fait, ces méga-bassines posent une véritable question de société. Certains agriculteurs et des assos de défense de l'environnement sont contre, déjà parce que, en pompant les nappes phréatiques, on les fragilise, ce qui peut mener à la diminution de la quantité d'eau disponible. Aussi parce qu'elle mène à la création d'eau stagnante dont une partie s'évapore et se perd, alors même qu'on a de moins en moins de réserves d'eau disponibles. Mais aussi, et surtout, il est reproché aux méga-bassines de reposer sur un modèle qui est complètement inadapté au dérèglement climatique, qui incite à continuer de produire de manière intensive, comme si de rien n'était, alors même qu'il n'y a pas suffisamment de ressources naturelles. Alors, les organisations écolo, en manifestant, veulent surtout qu'on revoie profondément notre modèle agricole. Bref, sujet complexe, plutôt daté de fin mars d'ailleurs, mais je voulais vraiment ouvrir avec ça, d'autant que j'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo parce que ça s'était vraiment passé à la fin du mois. Et puis, faut bien comprendre pourquoi ce mot « méga-bassine », qui était un peu inconnu au bataillon, était sur toutes les lèvres au mois d'avril 2023.
Salut Gaspard, j'espère que tu vas bien. Alors moi, ce qui m'a personnellement marqué ce mois, c'est la réintégration d'Adrien Quatennens à son groupe parlementaire. Je trouve ça assez culotté de la part de cette gauche mélenchoniste qui, sachons-le, pendant les deux dernières échéances nationales, n'a pas arrêté d'être les premiers défenseurs des violences sexistes et sexuelles, mais malheureusement, quand ça arrive à son coordinateur, on préfère le soutenir que la personne qui a été victime de ces violences-là.
Hello Gaspard, j'espère que tu vas bien. En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup de réactions, parfois très vives, et en fait, moi, j'ai pas bien compris ces réactions dans la mesure où il a déjà été condamné par la justice, il a aussi été condamné sur le plan politique avec son exclusion temporaire du parti. Et simplement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il aurait pas le droit lui aussi à une réintégration. Je voulais savoir ce que t'en pensais.
Salut les gars, merci pour vos messages. On le voit, c'est un sujet qui divise, et vos deux réactions vont définitivement pas dans le même sens. Mon but, je le rappelle, c'est pas de donner une vérité toute crue, mais plusieurs réalités, plusieurs opinions qui retranscrivent bien l'époque. Alors, pour ceux qui suivent pas bien la politique française, Adrien Quatennens, c'est lui. C'est un député et un visage bien connu de la France insoumise, très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et en décembre dernier, il a été condamné à une peine de 4 mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences conjugales sur son épouse, Céline Quatennens. Très concrètement, la justice a reproché au député d'avoir donné une gifle à son épouse il y a plus d'un an et de l'avoir harcelé par SMS alors qu'ils venaient de se séparer. Une affaire de violence conjugale, donc, qui prend une autre tournure parce qu'elle se passe dans un camp politique qui a longtemps condamné avec fermeté et intransigeance ces violences lorsqu'elles arrivaient chez leurs opposants politiques.
Une nouvelle plainte pour tentative de viol contre Damien Abad. Est-ce qu'il peut rester en place en tant que ministre ?
Je vais vous citer Madame Borne, oui. 22 mai. Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Donc, si on écoute Madame Borne, oui, bien sûr, Monsieur Abad doit démissionner.
Alors, dans la foulée de ces condamnations, la France Insoumise avait annoncé dans un communiqué leur décision d'exclure temporairement le député Quatennens du mouvement pour 4 mois et de le réintégrer à condition qu'il suive un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'assauts féministes. Et il y a quelques mois, en janvier 2023, Adrien Quatennens est donc revenu à l'Assemblée nationale. Mais il siégeait auprès des députés non inscrits, c'est-à-dire les députés qui n'appartiennent à aucun groupe parlementaire.
Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Quatennens.
Merci M. le Président.
Bon, ça, c'est pour le contexte. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ces 4 mois d'exclusion du député Quatennens se sont terminés ce 13 avril 2023. Du coup, les députés de la France Insoumise ont voté pour sa potentielle réintégration. 45 ont voté pour, 15 ont voté contre, 2 se sont abstenus et 10 n'étaient pas présents lors du vote. Le député a donc officiellement réintégré le groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, ce qui n'a clairement pas fait l'unanimité dans l'hémicycle. Et ça, notamment auprès des groupes qui font partie de la NUPES, avec la France Insoumise, la NUPES, ou la NUP, je le rappelle, c'est cette alliance des partis de gauche qui a été créée suite aux législatives de 2022. Je vous cite par exemple la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle dit sur France Info que pour elle, le député insoumis ne peut pas siéger dans les rangs de la NUPES, un constat qui est partagé par le Parti Socialiste qui a publié un communiqué dans lequel il est écrit que cette décision est à la fois inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la NUPES. Il s'agirait d'un mauvais signal envoyé à toutes les femmes qui espèrent en la gauche et son rassemblement pour briser le patriarcat et ses mécanismes dont les violences faites aux femmes sont une des expressions les plus terribles. Les députés insoumis, eux, se défendent en disant que y a eu un vote. Un vote qu'il faut respecter, comme l'a dit en plateau l'éditorialiste et le député Aymeric Caron.
Bref, le bilan a été fait que, fidèle au principe d'ailleurs de la gauche, c'est qu'une peine, une fois qu'elle a été purgée, eh bien, on peut passer à autre chose et on peut réintégrer la vie active.
Bon, la NUPES est déjà fragile, pas sûr qu'elle ait besoin de ça. Définitivement, ça met la France insoumise face à certains de ses paradoxes.
Salut Gaspard, moi j'aimerais te parler du Conseil constitutionnel qui a quelques jours a validé une partie du projet de loi porté par le gouvernement sur la réforme des retraites. Je trouve ça assez injuste qu'après des semaines de mobilisation aussi forte, mais surtout après un débat confisqué à l'Assemblée, que le Conseil valide ce projet de loi quand bien même ils estimaient que la procédure était inhabituelle. Donc voilà, je comprends pas trop leur décision et... quand on voit les mobilisations qui continuent partout en France, j'ai pas l'impression d'être la seule.
Coucou Athénaïs, j'espère que tu vas bien. J'avais déjà pas mal parlé dans mon carnet de bord de mars 2023 de cette réforme des retraites. On en avait parlé ensemble d'ailleurs, t'étais dans le cortège si je me souviens bien. Donc sans rentrer dans tous les détails de la réforme des retraites, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici et vous aurez la vidéo du mois dernier. En gros, je vous le rappelle, en mars 2023, la première ministre Elisabeth Borne a déclenché le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites en... squeezant le vote des députés. Et pour que cette loi soit validée, comme d'hab, il fallait que le Conseil constitutionnel l'examine. Le Conseil constitutionnel, pour ceux qui l'ont pas, c'est une institution composée de 9 membres. Vous avez peut-être vu déjà dans les médias, on les appelle les sages. C'est un peu la maison de retraite aussi des présidents de la République. Et ces sages sont nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Leur rôle, c'est entre autres de veiller à ce que les lois françaises respectent la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Et dans le cas de la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision le 14 avril 2023, en validant une grande partie du projet de loi porté par la majorité et le gouvernement d'Emmanuel Macron, et notamment LA mesure principale, à savoir le report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030. La loi a donc finalement été promulguée quelques heures plus tard, le 15 avril dernier. Et comme tu l'as dit, Athénaïs, beaucoup de Français ont vécu cette décision comme injuste. Et d'ailleurs, lors de la prise de parole à la télé du président Emmanuel Macron, un appel a été lancé aux citoyens français, celui de faire un concert de casseroles pendant l'allocution du chef de l'État. D'ailleurs, pendant son discours, le président a dit regretter l'absence de consensus sur les retraites et a donné 100 jours à son gouvernement pour agir, je cite, « au service de la France ». Il a aussi dit avoir entendu la colère des Français, mais a affirmé que, pour lui, cette réforme des retraites était nécessaire.
Pour autant, cette réforme est-elle acceptée ? À l'évidence, non.
Et pour les 8 principaux syndicats français, qui ont organisé toutes les grosses manifs jugées historiques d'ailleurs, cette réforme est brutale, injuste et injustifiée. D'ailleurs, les différents syndicats appellent les salariés français à faire du lundi 1er mai une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale. A priori, il devrait donc y avoir encore pas mal de personnes dans les rues le 1er mai pour manifester contre la réforme des retraites. Et oui, on n'a pas encore fini d'en entendre parler.
Salut Gus, j'espère que tu vas bien et que ton équipe se porte bien également. Alors, en parlant d'actualité, il se passe quelque chose d'assez terrible en ce moment au Soudan et je pense que ce serait plutôt intéressant qu'on en parle en vidéo et qu'on relaye au maximum l'information. Il y a un conflit actuellement qui s'y déroule et c'est très inquiétant. Il y a déjà plus d'une centaine de morts, donc voilà, je pense que ce serait... important d'en parler dans ta vidéo. Voilà. Sur ce, bonne vidéo à tous.
Hello Joe, merci beaucoup pour ta vidéo. C'est un sujet qui est hyper important, absolument terrible, alors merci d'en parler. Je remets un peu de contexte. Depuis le 15 avril 2023, il y a des combats meurtriers au Soudan, un pays qui est situé dans le nord-est de l'Afrique. En fait, ces combats opposent deux généraux. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef de l'armée, et donc le dirigeant du Soudan actuel, et Mohamed Jamdan Daglo, le chef de l'unité paramilitaire RSF pour les forces de soutien rapide. Bon, une unité paramilitaire, pour ceux qui savent pas, c'est une unité qui s'entraîne comme les militaires, mais qui n'est pas officiellement reconnue comme faisant partie des forces armées d'un État. Alors il faut savoir que ces deux hommes n'ont pas été toujours opposés l'un à l'autre, ils ont même été complices en 2019 quand ils ont organisé un coup d'État pour faire tomber l'ancien dictateur du Soudan, Omar el-Béchir. Le conflit entre les deux généraux qui a été déclenché il y a quelques jours est le résultat d'un désaccord sur l'avenir du groupe paramilitaire au Soudan. En gros, l'armée veut bien intégrer le groupe paramilitaire, mais pose certaines conditions qui ne plaisent pas au chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, qu'on appelle aussi MHT. Et pour régler leurs différends, les deux camps ont finalement décidé de prendre les armes, notamment à Khartoum, la capitale du pays, et c'est particulièrement sanglant. Au bout d'une semaine de conflit, plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées. Les Soudanais tentent tant bien que mal de fuir le Soudan vers d'autres pays voisins, comme le Tchad par exemple, alors que l'eau courante et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours dans la capitale Khartoum. La nourriture commence également à manquer dans un pays où, il est important de le rappeler, un tiers de la population souffre déjà de faim. Pour Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, la situation humanitaire au Soudan était déjà précaire, elle est maintenant catastrophique. Plusieurs pays comme les États-Unis et la France ont décidé de faire évacuer leurs ressortissants et diplomates. Clairement, pour les spécialistes de la région, cette guerre n'est pas prête de se finir, même si, et je viens de l'apprendre au moment où je tourne ce journal de bord, un cessez-le-feu de 72 heures a été accepté à compter du 24 avril à minuit.
Salut Gaspard, dans le fond, Donald Trump a été convoqué au palais de justice de la ville de New York pour 31 chefs d'accusation concernant sa campagne électorale de 2016 avec des fonds de fraude et tout ça, donc je sais pas si ça t'intéresse d'en parler, c'est encore d'actualité.
Allô Mélodie, merci pour ton message, j'espère que tu vas bien. Ce qui me permet très rapidement de vous dire que j'ai reçu plein de messages de francophones en dehors de l'Hexagone qui me demandent s'ils peuvent participer à ces capsules temporelles. La réponse est évidemment oui. Je suis trop content d'avoir des envoyés spéciaux dans toute la francophonie et ailleurs. En plus, vous connaissez mon attachement au Québec, donc ça me fait plaisir. Merci Mélodie. Et t'as bien raison de me parler de Trump, parce que ce mois d'avril a été marqué par un événement historique. Aux États-Unis, pour la première fois, un ancien président est poursuivi par la justice américaine.
We today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law.
Donald Trump s'est rendu début avril au tribunal pénal de Manhattan à New York. Il est visé par 34 chefs d'inculpation et non 31 pour être tout à fait exact. On lui reproche notamment d'avoir essayé d'étouffer 3 affaires au moment de la présidentielle américaine de 2016. Celle qui a fait probablement le plus parler concerne une actrice porno. Son nom c'est Stormy Daniels. Stormy Daniels, pardon. Bon, elle s'appelle en réalité Stephanie Clifford et elle aurait reçu 130 000 dollars pour ne pas parler de sa relation avec Donald Trump qu'ils auraient eu en 2006 alors que le businessman était déjà marié avec Melania Trump, son épouse, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur son histoire, mais en dehors du fait qu'il aurait trompé sa femme et qu'il venait d'avoir un enfant, ce qui pose véritablement problème dans cette histoire et ce qui est condamnable, c'est qu'il aurait fait passer cette somme pour des frais juridiques de son entreprise, la Trump Organization, ce qui est complètement illégal. L'ancien président de 76 ans jure qu'il est non coupable et il affirme que son inculpation est une insulte à la nation, dont le but serait de compromettre sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, qu'il a annoncé en novembre 2022.
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
D'ailleurs, pour info, on y voit un peu plus clair depuis ce mois-ci, puisque le président américain Joe Biden a lui aussi annoncé sa candidature à l'élection américaine de 2024. Évidemment, on a une impression de déjà-vu. Les deux sont presque ou déjà octogénaires. Je pense que l'Amérique a besoin d'un vrai vent de fraîcheur en politique, et ça, à la limite, c'est un autre sujet. Puis ça se demander si Joe Biden a véritablement la santé pour faire 4 ans de plus. En tout cas, pour le moment, Donald Trump reste libre, mais son procès pourrait commencer début 2024, soit quelques mois avant l'élection américaine. D'ailleurs, faut-il le rappeler, Trump est visé par plusieurs enquêtes qui sont actuellement en cours, comme celle qui concerne son rôle dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Bref, Trump est de retour, mais il n'est pas encore sorti d'affaire.
Bonjour Gaspard, bonjour l'équipe. J'espère que le retour de votre premier voyage en Ukraine s'est bien passé. Je vous attends à nouveau à Kyiv ou peut-être ailleurs en Ukraine. Et entre-temps, j'ai hâte de voir la vidéo.
Coucou Dana, écoute, merci pour ton gentil message. On était, pour vous expliquer, la semaine dernière dans les rues de Kyiv avec Dana, qui était notre fixeuse en Ukraine, parce que pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, j'étais en Ukraine la semaine dernière. J'ai tourné un long reportage avec une partie de mon équipe. Ça a été un séjour qui a été fort en émotions et riche en rencontres aussi. J'ai vraiment hâte de vous montrer cette vidéo et j'ai pu constater que définitivement le conflit russo-ukrainien risquait de traîner un peu dans la durée et tristement donc avoir sa place dans ces capsules temporelles pendant encore un petit moment. Je ne vais pas revenir ici sur tout ce qui s'est passé en Ukraine, ce serait beaucoup trop dense. Pour ce mois d'avril en tout cas, il y a quand même deux éléments que j'aimerais rappeler. Le premier, c'est que l'Ukraine promet depuis plusieurs semaines déjà une contre-offensive et ça, les civils ukrainiens l'attendent patiemment. Alors on ne connaît pas encore la date de cette contre-offensive. En revanche, il y a une date qu'il faut retenir, c'est celle du 18 mai 2023. Pourquoi ? Eh bien parce que la Russie menace de mettre fin à cette date, à un accord qu'elle a signé avec l'Ukraine. Un accord qui a été trouvé en juillet dernier sous la supervision de la Turquie et de l'ONU. Cet accord qui avait permis la mise en place de couloirs sécurisés pour pouvoir faire passer des cargos marchands en mer Noire. Et les deux pays s'étaient engagés à ne pas les attaquer. Ce qui avait permis à l'époque d'exporter des tonnes de céréales qui étaient bloquées en Ukraine, notamment sur le port d'Odessa. Et pour pouvoir prolonger cet accord et permettre à l'Ukraine d'importer et d'exporter des marchandises, la Russie pose plusieurs conditions aux pays occidentaux, notamment la levée de certaines sanctions qui pèsent indirectement sur les exportations agricoles russes. Bon, j'en parlerai plus longuement dans ce reportage. On fait notre max, mais il y a beaucoup, beaucoup de montage, donc ça devrait paraître d'ici quelques semaines.
Le 17 avril 2023, l'Inde a dépassé la Chine en nombre d'habitants et compte désormais 1 milliard 425 millions d'Indiens, soit le pays le plus peuplé du monde. Et pour information, la Chine et l'Inde avec 2,8 milliards d'habitants en combiné représentent la population mondiale de 1955.
Wow, j'ai l'impression d'avoir vu un TikTok. Merci Gaspard. Très bizarre d'avoir quelqu'un qui s'appelle Gaspard en fait. L'info est dingue, mais je vais nuancer un peu le propos. L'Inde devrait ou a déjà dépassé la Chine et devenir donc le pays le plus peuplé du monde et même le rester jusqu'au moins la fin du siècle. Pourquoi je dis que je vais nuancer un peu le propos ? Parce que les sources donnent des chiffres un peu différents. En fait, surtout les estimations varient puisque l'Inde n'a pas réalisé de recensement de sa population depuis 2011, mais en gros, le département des affaires économiques et sociales de l'ONU mise sur un dépassement d'ici la fin du mois d'avril. Son estimation, c'est que l'Inde devrait atteindre à ce moment-là 1,425 milliards d'habitants. Mais le Fonds des Nations Unies pour la Population estime plutôt que l'Inde dépassera la Chine à la mi-2023, donc plutôt en juin. Bon, à la limite, les chiffres, c'est intéressant, mais ça nous raconte rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles l'Inde détrône la Chine au classement des pays les plus peuplés dans le monde. Déjà, il faut savoir que en 2022, pour la première fois depuis 60 ans, la population de la Chine a baissé. Alors qu'au contraire, en Inde, la population, elle, continue d'augmenter. L'Inde pourrait atteindre, ce sont des estimations, mais 1,7 milliard d'habitants en 2060. 1,7 milliard d'habitants. Évidemment, une population aussi nombreuse, ça pose de nombreux défis. Des défis économiques déjà, puisque la population indienne est extrêmement jeune. 40% de la population a moins de 25 ans, des millions de jeunes chaque année entrent sur le marché du travail. Un autre défi consiste notamment à nourrir et à loger cette population grandissante. Plusieurs grandes villes indiennes font déjà face à une crise du logement. Et enfin, je pense qu'il est important de souligner l'impact environnemental. Je vous le rappelle, New Delhi est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus polluée du monde. Et ça, ça va clairement pas aider la santé de la planète. Merde, j'avais dit que je terminerais sur une note positive. Et ben, j'imagine que ce sera pour le mois prochain. Bon, je crois que ces actus, ces images, ces témoignages résument bien le mois d'avril 2023 qu'on vient de vivre. C'était mon deuxième journal de bord. Merci à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages pour participer à ton tour. C'est très simple, il suffit de m'envoyer une vidéo ou une note vocale sur Instagram. Gaspard G, vous pouvez le faire tout au long du mois. Simplement bien préciser votre prénom, votre âge et votre ville. Vous êtes 568 000 abonnés à ma chaîne YouTube, ça fait donc à peu près 570 000 envoyés spéciaux un peu partout dans le monde. Petit rappel, si vous voulez soutenir économiquement mon travail, j'ai ouvert il y a peu une page Patreon. Ça permet de filer un petit coup de pouce, il y a plein de contreparties, le lien est en description. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour un nouvel épisode de l'Histoire 2. C'était Gaspard G, abonne-toi. Ma vidéo de la semaine dernière a un peu bidé. C'est pas grave, ça arrive, mais j'avoue, j'ai un peu le seum parce que je la trouve super chouette. Je reviens sur l'histoire du droit à l'avortement en France avec ma pote Louise Aubry de la chaîne YouTube My Better Self. Bon visionnage.